Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduite.
Qui appelle quand même l'admiration.
Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque.
Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes? Contre quoi ont-elles résisté? Que crient-elles? Que rêvent-elles? Que lisent-elles? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Aïssa Maïga.
Le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi. Le féminisme n'a pas tellement droit à l'erreur.
This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here. And more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'attends encore. J'attends qu'en France, un mouvement comparable à MeToo aux États-Unis s'empare de l'industrie du cinéma. J'attends que des voix de femmes s'élèvent pour dénoncer les pratiques sexistes dans ce milieu encore très largement dominé par des hommes. Même si les lignes bougent, avec par exemple l'appel 50-50 pour 2020 qui réclame la parité et une plus grande diversité dans les professions du cinéma, tout reste encore à faire. Les actrices françaises en particulier semblent hésiter à s'emparer d'un terme qui risquerait peut-être de leur fermer des portes. Je parle du doux, du puissant mot de féminisme. Dans ce contexte, la voix d'Aïssa Maïga est essentielle. Dans le recueil qu'elle a dirigé, Noir n'est pas mon métier, cette actrice à la brillante carrière a rassemblé les témoignages de 16 comédiennes noires qui racontent le racisme et le sexisme qu'elles subissent toutes au quotidien dans leur carrière. Je suis honorée qu'elle ait choisi de venir dans La Poudre pour partager avec vous, dans le détail, le parcours et les vécus qui l'ont décidé à jeter ce pavé dans la mare du cinéma français. Avec Aïssa Maïga, nous avons parlé de mort, de sororité et d'affiches de ciné. Aïssa Maïga, vous êtes comédienne. Vous avez tourné au cinéma avec les plus grands réalisateurs français, de Michael Haneke à Michel Gondry. Vous êtes adorée d'un cinéma intellectuel, engagé. Vous êtes par exemple l'héroïne de Bamako, d'Abderrahmane Sissako, qui vous a valu une nomination au César en 2007. Vous êtes aussi adorée du grand public, que vous avez marqué dans des films populaires comme Les Poupées Russes de Cédric Clapiche ou récemment Bienvenue à Marly Gaumont de Julien Rambaldi. Alors oui, je ne cite que des noms de réalisateurs masculins, ça m'écorche un peu la bouche. Mais nous plongeons avec vous les deux pieds dans l'univers du cinéma, un milieu très sexué, où la prédation des hommes de pouvoir sur les femmes commence tout juste à être révélée, surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes la première actrice que je reçois dans La Poudre, Aïssa Maïga. Et je suis fière que vous soyez là, parce que vous portez un message important. Je me suis souvent demandé pourquoi j'étais parmi les seules actrices noires à travailler dans ce pays pourtant métissé qu'est la France. Cette phrase, vous l'écrivez en introduction d'un recueil que vous avez dirigé, intitulé « Noir n'est pas mon métier ». Publié au Seuil, et dans lequel 16 actrices, dont vous, racontent le racisme systémique dans le monde du cinéma, du théâtre et de la télévision. Pour préparer cette émission, j'ai regardé beaucoup d'interviews de vous. Vous avez toujours été engagée, vous avez toujours été politique et consciente. Mais j'ai l'impression qu'avec ce livre, votre parole s'élève plus fort encore. La semaine dernière, sur France Inter, je vous ai entendu dire « c'est un livre féministe ». J'ai jubilé. Je sais à quel point c'est difficile dans votre milieu d'employer un mot aussi radical que le mot féministe. Alors ma première question, c'est est-ce que vous avez décidé de l'ouvrir super grand ?
Ah oui, 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 oui. Et puis avec l'idée d'une maturation, voire d'une maturité,
d'un long chemin parcouru, des discussions échangées avec beaucoup de gens. Donc c'est à la fois un cri du cœur et en même temps, c'est quelque chose de très pensé.
Est-ce que ça vous aide l'air du temps, les prises de parole féministes? Il y a beaucoup de femmes qui montent au créneau, il y a une sorte d'assurance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné aussi le courage d'accoucher de ce projet?
J'ai été très admirative des femmes qui ont pris la parole en révélant qu'elles avaient été victimes d'abus, de violences sexuelles. J'ai été admirative parce que c'est quelque chose qui est toujours très difficile à avouer, que ce soit dans un cercle familial, intime, amical. Et quand c'est fait sur la place publique, c'est une exposition de soi, je pense que ça doit être extrêmement difficile. Donc voilà, j'étais assise chez moi, j'écoutais la radio, je regardais la télé, je lisais les journaux et je regardais toutes ces femmes prendre leur courage à deux mains. Et j'ai constaté aussi à quel point ça avait libéré des femmes en dehors de la sphère du cinéma hollywoodien. Cette notion d'exemplarité entre femmes, elle n'est pas très loin de celle de la notion de sororité. En fait, on se fait la courte échelle, on s'aide mutuellement et puis on s'inspire les unes les autres. Et forcément, comme tout le monde, j'ai été inspirée et imprégnée. J'ai absorbé l'air du temps et j'imagine que écrire... De toute façon, j'ai jamais pensé à ça à part cette année. Donc voilà, je ne peux pas tellement faire de projections même dans le passé. Mais... c'est sûr que ça aide.
Il y a une maturité, en fait, de votre expérience qui a rencontré aussi peut-être une maturité de l'époque, en quelque sorte.
Enfin... Et puis, je suis heureuse de vivre cette époque-là, parce que moi, j'ai grandi à une époque où le mot féminisme, c'était un gros mot. Et où moi-même, je me souviens, ado, c'était un mot péjoratif. On pensait aux chiennes de garde. Il y avait tout un lexique très négatif qui entourait la notion du droit des femmes, en fait, la défense du droit des femmes. Donc, je suis heureuse d'avoir, d'une part, pu déconstruire ces schémas-là au fil des années, d'avoir pu me réapproprier tout ce champ, et d'être aujourd'hui en mesure de faire résonner mes mots avec ceux de l'époque et juste d'être témoin de ça, je considère que c'est une chance énorme.
Et l'accueil réservé au livre, il est chaleureux, je trouve.
Mais il est extraordinaire, honnêtement. On a écrit ça vraiment dans notre coin, avec la première à qui j'en ai parlé, c'est Charlotte Rothman. Je dirais qu'on est presque 17 à avoir écrit ce livre. Elle a fait un boulot d'éditrice exceptionnel, de recueil des témoignages oraux pour celles qui n'ont pas voulu passer par l'étape écrite, et puis d'accompagnement pour celles qui se sont saisies du texte à l'écrit. Et je pense que sans elle, sans Charlotte Rothman, ce bouquin, d'abord, je ne l'aurais pas fait. Je ne me serais jamais risquée à aller voir un éditeur comme ça, un peu au hasard. Je l'ai fait avec elle parce que c'est une femme dont je respecte l'engagement depuis toujours, la constance, l'intégrité à toute épreuve. Et puis, elle a une bienveillance totale. Donc, je savais aussi que mes camarades allaient être en confiance avec elle. D'abord, comme on l'a écrit vraiment dans notre coin, on est quand même 16 co-auteurs, on ne voulait pas diluer... la nouvelle, annoncer les choses. Donc, on était avec notre petit secret, quoi. C'était notre bébé à toutes les 16, à toutes les 17. Et on a écrit vraiment dans le secret. Moi, j'en ai parlé à très peu de gens. Je brûlais d'envie de partager cette nouvelle avec tout mon entourage. Et je me suis bien gardée de le faire. Et pendant tous ces mois, entre l'écriture et puis la sortie du livre, il s'est passé 3 mois à peu près, ça a été très vite, je suis passée par plein d'étapes où je me suis dit parfois, vous écrivez ça, mais tout le monde s'en fout. Hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait 3 bouquins vendus et hop, au placard, on passe à autre chose. Je me suis dit aussi, un peu comme toutes les filles, à un moment, m'a traversé l'idée que ça allait nous porter préjudice parce que à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est ouvrir le champ, offrir plus de possibilités et sûrement pas que les portes se referment. Mais bon, la peur n'était pas du tout un motif pour reculer. Et puis, par ailleurs, je pensais qu'on allait être... En fait, il y a un truc qui m'a vraiment étonnée. C'est que, bon, moi, j'avais le nez dans le guidon. Au bout d'un moment, les textes, je ne les voyais plus trop. Je n'arrivais pas à me figurer ce que ça pouvait produire comme effet en première lecture, comme ça. Et en fait, je pense que j'ai sous-estimé...
L'impact. Bien sûr.
Émotionnel que ça allait créer.
C'est une claque de lire ces textes. Ouais. C'est une vraie claque de les lire. Vraiment, C'est écrit avec une force, une sincérité aussi, un courage de la part de toutes vos co-autrices qui est vraiment, vraiment marquant. Mais on va y revenir en longuement tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on fasse ce qu'on fait dans la poudre, c'est-à-dire redérouler un peu le parcours pour essayer de comprendre comment vous êtes devenue cette femme qui porte aujourd'hui cette parole importante. Donc vous avez passé les toutes premières années de votre vie à Dakar, au Sénégal, et vous dites souvent que vous n'en avez aucun souvenir.
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai quelques images qui ressemblent à des images de rêve, donc qui n'ont pas tellement de logique. Et puis, en fait, je suis partie, j'avais 4 ans et demi, donc c'est vraiment le moment où les tout premiers souvenirs arrivent. Et je pense que j'ai vécu quand même un choc émotionnel lié au déplacement, à la nouveauté, puis lié au fait que ma mère est restée au Sénégal et que je suis venue avec mon père, avec lequel je n'avais pas habité avant. Donc, pour une enfant, je pense que c'est comme une reprogrammation, quoi. Donc, je pense que quelque part, je suis née à 4 ans et demi.
Il y a une rupture dans votre enfance.
Oui.
Donc voilà, à 4 ans et demi, vous arrivez donc avec votre papa, qui donc s'occupe de vous après la séparation de vos parents. Il était journaliste. Vous installez à Fresnes, où vous vivez jusqu'à l'âge de 9 ans. Alors, c'était comment de grandir à Fresnes?
Ah, c'était bien. C'était bien parce que j'habitais dans une petite résidence qui s'appelait Air et Soleil. Et c'était des petits immeubles de 4 étages à peu près, avec un grand jardin au milieu, qui était évidemment notre terrain de jeu. Je dis notre parce qu'on était vraiment une bande de gamins, de gamines. On a grandi tous ensemble. Et c'était... moi, j'adorais l'école, j'adorais être avec mes amis. J'étais une enfant plutôt gaie.
Alors... Je voulais savoir, la question que je pose toujours dans la poudre, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite. Et en même temps, j'ai découvert que vous avez eu tellement de sources d'éducation entre votre père, mais aussi vous parlez souvent d'une grand-mère adoptive vietnamienne, d'un oncle et d'une tante qui vous ont aussi beaucoup élevé, de certains modèles que vous avez aussi au Mali, la famille de votre père. Donc finalement, on vous parlait, j'ai l'impression, sur beaucoup de modes différents.
Oui, alors justement, ça c'est un truc, je pourrais en faire des sketchs à l'infini, hein, parce que, donc, à l'école, par exemple, tous les enseignants étaient français, françaises, et ils nous parlaient avec cet accent, cette façon qu'on a, parler aux enfants, pour moi c'était vraiment le monde français, quoi. Et puis à la maison, c'était pas sucré, hein, comme ça dans les voix. C'était « va me chercher ci, fais ça, lève-toi, fais ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Il y a une façon de s'adresser aux enfants après le sevrage, quoi. Une fois qu'ils sont capables capables d'un peu d'autonomie, qui est très différente dans ce que j'ai vécu. Et puis, je voyais la différence entre chez mes copines, « Ophélie !» Stéphanie,
tu fais bien le petit ton un peu pointu.
C'est ça. À la maison, c'était complètement différent. Et moi, quand mes copines se faisaient gronder, je trouvais que c'était vraiment nul, quoi.
Un peu léger.
Oui, c'était très, très, très light. Et oui, il y a une notion d'autorité, en fait, dans les familles africaines, et puis de respect des anciens. L'enfant n'est pas roi, a priori. Bon, il y a toujours des exceptions, mais c'était un schéma très, très... très difficile. Et puis, ayant grandi dans plusieurs foyers familiaux avec plusieurs influences, je voyais bien que le monde était multiple, quoi. C'était un truc, je me le disais pas comme ça, évidemment, j'étais une enfant, mais c'était l'évidence, c'était là.
C'est quand même d'une richesse incroyable. D'ailleurs, dans le livre, quand vous écrivez votre parcours, ce qui vous a amené à devenir comédienne, il y a cette phrase que je trouve très belle. « J'ai été nourrie au lait d'adultes multiples. Il faut un village pour élever un enfant. » Donc, vous désignez aussi toutes les cultures qu'on vous a transmises, une culture tantôt musulmane, tantôt chrétienne, tantôt laïque et socialiste, tantôt féministe. Enfin, c'est quand même incroyable d'avoir un tel panel, une telle largeur de vue quand on est petite comme ça.
C'est une chance incroyable. C'est une chance parce que, en fait, ça relativise beaucoup la place des parents. La notion de toute puissance des parents est mise à mal du fait que les inspirations la vérité se balade sous plein de formes différentes et du coup ça permet aussi de développer l'idée qu'on a le choix de devenir qui on veut, de se construire soi-même et de choisir comme ça dans les inspirations. Alors après, moi, ça s'est fait aussi parce que mon père est mort et qu'il a fallu que d'autres prennent le relais. Donc, je ne veux pas non plus le romancer et en faire uniquement cette chose un petit peu utopiste. Ouais. C'était l'évidence, le métissage, la pluralité des points de vue, etc. Et en même temps, ça, c'est, j'ai été accompagnée par ça dans des moments de déchirement et puis de deuil et de choses comme ça. Donc, tout s'est mélangé. Enfin, c'était ma vie, quoi, tout simplement.
Oui, bah, je voulais vous en parler. Ah oui, à l'âge de 8 ans, donc votre père, qui était un grand journaliste politique, meurt en mission pendant un reportage au Burkina Faso. Tout porte à penser qu'il a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Et vous vous dites, depuis cet épisode de votre vie, donc à 8 ans, être habité par l'idée de la mort, sans cesse.
Oui. En fait, j'ai découvert un jour, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai une copine avec qui je discutais, et je découvre qu'elle ne pense jamais à la mort. Et elle découvre que j'y pense tout le temps. Mais moi, je pensais être normale, évidemment, comme tout le monde. Donc pour moi, c'était la condition humaine que de penser d'être habitée par ça. Et ça a été une vraie leçon, parce que j'ai compris que c'était uniquement le traumatisme qui avait créé ce point de vue chez moi, et que c'était pas naturel. Ceci étant dit, je sais pas, mais c'est comme, enfin voilà, beaucoup d'enfants... On se demande ce que vont devenir nos parents. Et moi, j'étais très habitée par l'idée que mon père allait vivre 100 ans. Donc, j'avais peur de le perdre. Peut-être parce qu'il partait souvent en mission, il y avait l'absence, je ne sais pas. Mais en tout cas, la notion de perte, elle était là. Mais elle se traduisait par le désir qu'il soit immortel, quoi, tout simplement. Et en fait, ça m'a vraiment... Je pense que ça a conditionné toute la perception que j'ai eue et de moi-même et du monde par la suite. Parce que j'ai toujours eu la sensation que ça pouvait s'arrêter comme ça, dans la seconde, de façon totalement arbitraire. Et du coup, ça m'a toujours donné une sorte d'élan, un truc d'urgence que j'essaye de calmer aujourd'hui. J'essaye de reprogrammer le logiciel un petit peu par endroit. Et voilà, d'urgence de me dire, bon, c'est maintenant, il faut kiffer. Il faut aimer, il faut donner, remplir du sens qu'on a choisi notre existence, parce que d'abord c'est trop court, même quand on vit très longtemps, c'est vraiment court en fait,
ouais,
une existence.
Ça passe super vite.
Plus on grandit, plus on vieillit, plus le temps nous file entre les doigts, plus la notion de voilà, comment je vais occuper mon temps, comment je vais occuper mes journées, quels sont les gens avec lesquels j'ai envie d'évoluer, comment. Voilà, c'est tous ces choix-là.
Où je mets mon énergie vitale, en fait.
C'est ça. Et ça, je le dois aussi. C'est un cadeau de la vie d'avoir cette perception-là. Et je le dois à la perte de mon papa. Donc, c'est... Et j'ai mon fils cadet, qui a maintenant 15 ans, donc il était plus petit à l'époque. Il me demandait, maman, ton papa, il te manque. Je dis, bah oui, évidemment. Mais tu aurais aimé qu'il vive plus longtemps. Bah oui, évidemment. Mais en fait, s'il avait vécu plus longtemps, toute ta vie aurait été différente. Donc moi, je serais pas là. Ah oui. Donc tu aurais préféré qu'il vive et ne pas nous avoir, ou ça, ce qui s'est passé, qu'il meure et nous avoir. Et ça, il m'a confrontée à la question, au fait que moi, je peux pas m'imaginer vivre sans mes enfants. C'est pas possible. Par contre, vivre sans mon père, même si c'est dingue, c'est surréaliste, bah c'est ma vie, elle est comme ça. Mmh. Et je la chéris. C'est ce que je lui ai dit.
Et puis il y a une autre séparation, vous parlez du fait des départs réguliers de votre père qui vous donnait cette angoisse peut-être de la séparation ou de la perte, mais votre maman aussi était absente de votre éducation dans votre enfance. Alors il y a beaucoup de figures maternelles de substitution, je crois,
oui,
dans votre entourage, mais je me demandais si ça avait été une souffrance aussi de ne pas avoir...
C'est un manque. Une souffrance, ouais, sans doute, mais c'était surtout un manque en fait. C'était... Et puis bon, il y avait le manque, mon père je l'avais connu, donc... Il y avait le... Vraiment, c'est une autre sorte de manque, quoi. Je le connaissais, c'est lui qui manquait. Ma mère, je ne la connaissais pas, et il y avait le mystère. C'était plus ça, c'était l'inconnu qui me... J'avais une photo avec son nom écrit de l'écriture. Je l'ai toujours, cette photo, évidemment, un portrait d'elle, d'époque, hein, si j'ose dire, avec l'écriture de mon père, l'écriture manuscrite, ce qui comptait beaucoup pour moi quand il est mort, puisque je le voyais tout le temps écrire. Il avait son dictaphone qu'il posait à la maison. Il se mettait dans la cuisine, sur la table en formica. Moi, j'étais dans le salon. Il y avait, peut-être dans l'ordre, je ne suis pas sûre, Candy. comment ça s'appelle, Capitaine Flamme. Et donc, je voyais toujours mon père écrire. Et donc, j'ai vécu avec cette photo-là. Et puis, l'idée qu'un jour, j'allais la retrouver, ce qui s'est produit.
Vous l'avez retrouvée?
Elle m'a retrouvée, mais j'avais 17 ans. Donc,
Et ça a été comment, ce moment ?
Ah, c'est quelque chose que je ne vais pas partager ici.
Ok.
Parce que c'est de l'ordre des retrouvailles qui durent très longtemps. Mm-hmm. Parce que c'est dur de se retrouver.
J'imagine.
Vraiment.
Ouais.
Avec un gouffre entre 4 et 17 ans, c'est,
ouais.
c'est énorme.
C'est une
donc,
vie.
Donc voilà, c'est toute une existence. Donc c'est quelque chose dont je ne suis pas capable de parler, d'articuler comme ça en dehors de, voilà, de la sphère intime, évidemment. Mais parce que c'est... Work in progress.
Mmh. Je comprends parfaitement.
Mais ceci dit, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont en work in progress avec des parents qui les ont élevés.
Ah ben, je crois qu'en fait, c'est un peu l'histoire de la vie. C'est ça. D'arriver à aller au bout du work in progress avec ses parents, c'est en fait, ça. C'est le défi. Complètement d'accord. Ouais. Alors, bah justement, à 17 ans, vous aviez déjà croisé votre vocation, celle de la comédie, grâce à une prof de français qui s'appelle Daisy Fay, qui vous fait monter sur les planches à 14 ans. Alors, je vais un peu accélérer parce qu'on a beaucoup oui. de choses à se dire toutes les deux, mais j'ai lu qu'à 19 ans, vous avez participé à un projet artistique au Zimbabwe, qui avait oui. quelque chose de très ambitieux autour du théâtre. Et je me demandais si vous étiez... Alors, ça s'appelait Le Royaume du Passage d'Éric Clouet. Est-ce que vous vous souvenez de la jeune femme que vous étiez oui. alors, des rêves que vous aviez ? Comment vous imaginiez la suite de votre vie ?
D'abord, je ne pouvais pas m'imaginer faire autre chose que ça. J'ai cherché, mais j'avais du mal. J'étais terrorisée par l'idée de faire le même travail toute ma vie, d'être dans une routine et de subir une hiérarchie. C'était vraiment quelque chose qui m'était insupportable. Voilà. Et puis, il y a eu l'opportunité de ce film. Et je me souviens très bien que ce film a représenté la synthèse de tout ce que je voulais réunir dans le champ professionnel. Donc ça s'appelle Le Royaume du Passage d'Éric Clouet. Et c'était une sorte de déambulation assez libre à travers les âges, les siècles du continent africain, à travers sa créativité, depuis les cavernes jusqu'au rap. Enfin. Et donc on a beaucoup travaillé avec une troupe des townships au Zimbabwe. Et donc ils avaient mon âge. On avait 18 ans, 17, 18, 20 ans. Et c'était des jeunes qui étaient issus d'un ghetto, quoi. Et qui faisaient du théâtre d'intervention. Donc, ils écrivaient leurs textes et c'était des prises de position politiques, sociales, comme on en connaît en Afrique du Sud, quoi. Ce théâtre-là qui a une vitalité, une urgence incroyable. Et du coup, j'ai vu sous mes yeux des gens qui étaient dans une forme artistique très aboutie parce qu'ils étaient à la fois chanteurs, danseurs... acrobates, ils faisaient du karaté, ils se réveillaient à 5h du matin, c'était dingue, et c'était Fame en version township, c'était fou, c'était magnifique, et en même temps, il y avait cette notion d'engagement, le fait d'interpeller le public, le pouvoir, d'être dans l'idée qu'on pouvait à travers l'art faire bouger les lignes, et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. C'est ça.
Ça a été une évidence, en fait.
C'est ce qui m'a convaincue que j'avais fait le bon choix en voulant devenir actrice. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Et je voulais aussi faire du divertissement. Et voilà, je n'étais pas obsédée uniquement par l'idée de l'engagement. Hein. Mais c'était une notion qui était importante. Et je me souviens que j'avais besoin de sortir de l'anonymat. C'était vraiment un besoin comme une névrose, hein, j'imagine. Parce qu'on peut vivre sans, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Mais ouais, je pense que j'avais besoin de me dire j'existe, et pour moi j'existe, c'était ça.
Vous êtes devenue femme ou vous l'êtes de naissance ?
J'ai été femme très très tôt. D'abord, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du... quelque chose qui se transmet dans l'éducation à l'africaine, qui est une part de mon éducation, où tu es... On sait que, enfin, voilà, les petits garçons sont moins amenés à faire certaines tâches à la maison, etc. Donc, l'idée qu'on est une femme et qu'être une femme, c'est ça, elle arrive très, très tôt, quoi. Et puis, par ailleurs, femme, non, je sais pas. C'est très dur, hein, de répondre
elle
à cette
dure,
question.
Cette question, ouais.
Ouais. Femme, je sais pas, mais en tout cas, j'ai été projetée dans une maturité très tôt parce que, comme à 9 ans, j'avais plus ni père ni mère, bon, enfin, je connaissais pas ma mère, en tout cas. Je savais, parce que quelqu'un a eu le courage de me le dire, que pour moi, ça n'allait pas être facile j'allais devoir avoir de la force, tout ça. Donc, je sais qu'au collège, par exemple, j'avais plus de maturité que mes camarades. Et puis, ça s'est rééquilibré après. Tant mieux.
Bah, vous êtes quand même devenue maman très tôt aussi, à l'âge de 21 ans.
Ouais.
Je crois qu'à l'époque, donc, votre carrière de comédienne était en train de commencer et on vous a formellement déconseillé d'avoir un enfant.
Oui, mais déconseillé d'une façon extrêmement appuyée. Je pense que je subissais à la fois le fait d'être très jeune. En plus, je faisais encore plus jeune que les 21 ans que j'avais. Et donc, voilà, il y avait un surplomb des aînés. Et puis, l'idée quand même très pernicieuse, hein, que bah, si tu veux être actrice, en fait, tu... Comment dire ? Faut pas être mère, en fait. Il y avait quand même ce truc-là très présent. Et j'ai vu beaucoup d'amis renoncer à la maternité pendant un temps, le regretter parfois aussi, plus tard, parce qu'on a l'impression qu'on va passer à côté. Enfin, c'est la condition féminine dans toute sa splendeur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne disposes pas vraiment de ton corps. Il faut qu'il appartienne aux autres, au regard des autres. Et puis en plus, avoir un enfant, ça veut dire avoir des bâtons dans les roues. Moi, j'ai jamais compris cette notion. Mes enfants ne m'ont jamais empêché de... Mais ce sont des enfants, comment ? C'est leur donner beaucoup trop de puissance. Ils m'ont jamais empêché de faire quoi que ce soit. J'ai fait mes choix. Je suis pas quelqu'un qui se sacrifie. J'ai, voilà, c'est comme une sorte d'ensemble cohérent. Voilà, ils sont là et je fais mon métier et tout va bien, quoi. Mais je me souviens avoir beaucoup pleuré. Avoir ressenti une solitude et puis surtout, pour moi, c'était impossible. Je suis pour le droit à l'avortement, mais quand c'est un choix presque contraint, forcé,
c'est pas possible.
C'est, voilà. Et puis, mon fils est né et il a mis tout le monde d'accord.
Il a réglé l'histoire.
Voilà.
Alors, c'est le moment que j'ai choisi pour vous poser la question rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Aïssa Maïga ?
On va bien. On va bien, on avance ensemble. C'est drôle parce que je pense que je me sens libérée, en fait, par rapport à cette question-là. Parce que l'éducation, qu'elle soit occidentale ou africaine, est vraiment emplie de culpabilité, quoi. Les femmes, dès que t'as tes règles, t'es censée... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de copines qui se sont pris une tarte dans la figure.
Ah oui, c'est vrai,
c'est juste dingue, quand même. Moi, j'ai aussi beaucoup d'amis, moi, j'ai pas subi ça, hein, mais qui, quand elles ont commencé à avoir une vie sexuelle... ont rencontré leur chemin, hein. Leurs parents, sur leur chemin, avec des paroles qui sont extrêmement blessantes. Elles étaient traitées comme des traînées, comme des malpropres. Moi, j'ai pas subi ça du tout. Mais pour autant, je pense que même la notion de plaisir féminin, seul ou à deux, c'est des choses qui nous ont été inculquées de la mauvaise manière, quoi. Et puis voilà, moi j'ai fait mon petit chemin avec tout ça, et aussi parce que je pense être très bien accompagnée dans ma vie de femme, d'épouse et de mère. Ouais, j'ai de la chance.
Chouette.
Mais c'est marrant, hein, parce que j'ai rarement, j'ai quasiment pas connu de mec machiste. Vraiment. Je veux dire, je pense que j'ai baigné dans un truc où les femmes étaient tellement respectées. Dans toutes les familles là, que je vous décris, mon père, il n'était pas du tout, j'ai pas du tout le souvenir d'un macho.
Mais votre père, il a élevé une petite fille toute seule en même temps, c'est un bon remède.
Il n'a pas été tout seul, il s'est remis très vite avec quelqu'un.
Il avait une épouse, ça, ouais.
Mais en tout cas, il a fait le choix d'aller chercher sa fille. Bon, c'est sûr que c'est pas. Ouais. Tous les pères ne font pas ça.
Bien sûr.
Et voilà, non, en fait, je pense que j'ai reçu un bel héritage de ce côté-là, même si tout le contexte sociologique fait que quand même, c'est pas facile, en fait, d'être une femme et de rester libre, d'appartenir à aucun carcan, qu'il soit religieux, culturel, familial, social, etc. Et moi, j'admire... Je suis très heureuse parce que les petites jeunes que je vois aujourd'hui, j'en vois beaucoup. Et quel que soit... Alors là, c'est toutes origines, tout milieu, toutes religions confondues. Elles sont outillées, en fait. Elles ont une belle vision du féminisme.
Mieux que vous l'étiez à l'époque, à
leur
âge.
Mais beaucoup plus.
Ouais.
Ouais. Et je les vois évoluer. Et même la façon dont elles évoluent dans leur corps, les habits qu'elles choisissent, on sent qu'il y a un truc qui se libère, quoi, qui est plus juste.
Alors, je vais faire une petite séquence accélérée, hein, comme on fait au cinéma, pour parler de votre carrière, parce qu'évidemment, les gens qui pensaient qu'en ayant un enfant si jeune, votre carrière serait brisée, se trompaient. Votre premier long métrage date de 96, c'est un film de Denis Hamar, Sarah Cabot. Et ensuite, bah, tout s'enchaîne très naturellement. Vous tournez avec Anneke et avec Juliette Binoche en 2000, puis à nouveau en 2005. Vous jouez dans des séries télévisées qui ont beaucoup de succès. En 2004, vous décrochez un second rôle très remarqué dans Les Poupées Russes de Clapiche. Puis en 2006, dans Je vais bien, ne t'en fais pas, de Philippe Lioret. Puis, votre premier rôle, c'est en 2008, dans Le Temps de la Kermesse. Le Temps de la Kermesse est terminé, pardon, aux côtés de Stéphane Guillon. Alors, on arrive un peu au livre. Moi, je voulais poser cette question. Ce premier grand rôle, j'ai l'impression qu'il rentre tout à fait dans ce que vous dénoncez dans ce livre. C'est un rôle de femme africaine qui tombe amoureuse d'un homme blanc qui propose de l'arracher de sa condition, de sa pauvreté. Vous parlez avec un accent, vous parlez même pas correctement français dans ce film. En fait, c'est un rôle écrit pour une femme noire, même pour une femme africaine, pas pour une femme tout court. Et est-ce que c'est un petit peu ça que vous dénoncez dans ce livre ?
Alors, je vais juste dire que c'est pas mon premier rôle. Et ça compte beaucoup parce que du coup, psychologiquement, je pense que j'arrive pas du tout dans les mêmes dispositions. Puisque j'ai déjà
vous avez déjà une carrière importante derrière vous.
Oui,
à ce moment-là.
Je donne juste 2-3 exemples, même si je suis très mauvaise là-dedans.
Non, mais au contraire.
Alain Tanner, Jonas et Lila,
oui,
j'avais tourné
sûr.
En 99.
Ouais.
Voyage à Ouaga ou d'autres. Enfin, j'avais déjà.
Vous aviez déjà un nom.
Oui,
fait.
J'avais
déjà un visage.
Enfin, non, je sais pas, mais en tout cas, j'avais déjà eu plus en charge des premiers rôles dans des films, et ça, c'est très important parce que j'ai déjà l'expérience qui fait que je peux tenir tête. Enfin, je peux assumer certaines situations.
Mais moi, j'avais à cœur de revoir parce que voilà, j'avais pas vu tous vos films, j'en avais évidemment vu certains. Et je me suis dit, je regardais parce que c'est apparemment son premier grand rôle important. Et je suis tombée sur ce film, je me suis dit, mais merde, c'est hallucinant quand même. Enfin, quand on sait à quel point en plus vous avez aussi un amour du mot, d'ailleurs vous avez une très belle plume, et dans ce film vous prononcez très peu de mots finalement. Enfin, je sais pas, moi ça m'a quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a rappelé ce que j'avais lu dans le livre, c'est-à-dire ce côté, il y a des rôles écrits pour des femmes noires et pas des rôles de femmes qu'on propose à des femmes noires.
Ouais. En fait, ce film je l'ai accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce que le réalisateur avait un discours que je trouvais très intéressant sur la place du blanc, la figure, hein, vraiment, pour le coup, du blanc en Afrique occidentale, donc dans les anciennes colonies. Et donc, c'était l'histoire de cet homme qui arrivait, qui traversait un village, qui allait d'un point A à un point B, on ne savait pas trop quoi, mais qui était plus ou moins dans un business, et sa voiture tombe en panne, et c'est un village qui se trouve sur le bord de la route. Et sur le bord de la route, il y a des hommes qui sont là pour travailler, donc là, c'est l'aubaine, voilà, il faut réparer une voiture, etc., c'est le moyen de se faire un peu d'argent. Et il y a cette femme qui veut partir en Occident parce que c'est le seul moyen qu'elle a de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, le truc était renversé dans le scénario à un moment, c'était ces personnages-là qui trouvaient une voie, etc., etc. Ça, c'est le discours. Et il faut se méfier parfois du discours. Et l'autre raison qui avait fait que j'avais accepté, c'était le casting. Au départ, c'était Poulvord qui devait jouer ce rôle.
Poulvord,
et donc, je me suis dit, il a un truc tellement à part,
c'est vrai,
qu'il va apporter une absurdité. L'absurdité de la situation qui est décrite, donc de ce blanc qui s'embourbe dans ce village et de ces noirs africains qui vont essayer de tirer parti de cette situation comme ils peuvent. Ça, tout va prendre une ampleur, etc. Stéphane Guillon ne fait plus le film.
Benoît Poulvord
ne fait plus le film. Et c'est Stéphane Guillon. Et je me dis, tiens, on va y arriver. Et en fait, je pense que nous n'avons pas réussi.
Ouais.
Et que le metteur en scène était un réalisateur de documentaires, qu'il a été, je crois, je le dis avec sans mépris, mais qu'il a été un peu dépassé par le fait d'avoir des acteurs en face de lui. C'était difficile. Et qu'en fait, tous les écueils n'ont pas pu être évités. Et alors, je voulais revenir aussi sur un autre truc, c'est que... Alors moi, mon objectif, c'est pas de jouer des rôles qui ne soient pas des rôles de noirs, et puis des rôles qui soient que des rôles d'occidentales. Moi, j'ai très envie, parce que vu l'éducation que j'ai eue, vous voyez ce que je veux dire, j'ai été amenée à être très, imprégnée par certaines figures de ma famille. Et dans ces figures-là, il y en a qui parlent très mal le français, et qui sont des figures qui, moi, m'émeuvent. Pas que pour ça, mais pour d'autres aussi, pour aussi d'autres raisons. Et c'est aussi ces femmes-là
qui sont sans voix, que j'ai envie d'incarner à l'écran. Mais ce film-là en est un mauvais exemple parce qu'on n'a pas réussi, encore une fois.
C'est un drôle de métier, ouais, quand même, le cinéma. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement... Même je vous voyais dans les interviews, quand on vous demande de donner votre avis sur un scénario, sur un réalisateur, c'est à
c'est
la
délicat.
Fois... On vous demande d'avoir un avis extrêmement affermi sur des choses qui vont de toute façon vous échapper au final. Je me suis vraiment dit que c'était un drôle de métier, qu'il fallait être sacrément solide et bien ancré pour avoir la carrière que vous avez eue dans ce milieu-là.
Il faut être bien ancré, ça je le suis, et puis avoir une vision de soi au-delà de la situation.
D'ailleurs, c'est marrant, ça enchaîne bien avec la question suivante. Dans une de vos interviews, vous parlez d'une amie comédienne qui s'appelle Félicité Wassy,
oui,
qui vous a donné un jour ce conseil, tu sais, c'est sur la durée. Et je me demandais en quoi cette phrase que vous avez, je crois, citée au moins 2-3 fois en interview, vous avait aidée.
J'étais allée voir Félicité, ça faisait peut-être 2 ans que j'étais comédienne, vraiment, et puis ça faisait peut-être 1 an que je n'avais eu aucun casting. Et pourtant, mes copines, qui étaient blanches, avaient des castings quasiment toutes les semaines. Enfin, je veux dire, quand on a 20 ans, en général, voilà, c'est comme ça qu'on commence, on passe casting sur casting. Et puis, parfois, j'y allais quand même. Je forçais un petit peu la porte, et puis parfois, j'étais désespérée, parce que je me disais, j'en ai marre qu'on me regarde comme si je n'appartenais pas à cette planète. Et puis, un jour, j'ai un casting, c'est un rôle de prostituée. Mais en plus, c'est un rôle naze. Et puis, dans la même semaine, j'ai un deuxième casting. Alors, pendant 1 an, j'ai rien eu. Un rôle de prostituée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je ne vais pas y arriver, en fait. Et je sais pas, 2 ans avant, j'étais au Zimbabwe avec ces gens qui faisaient du théâtre d'intervention, qui étaient dans une force. Mais oh, tu t'asseyais dans la salle, t'en prenais plein la figure. C'était dingue, quoi. Et là, je me dis, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Et donc, je vois Félicité Wassy, qui avait été remarquée dans Black Micmac auparavant et qui est une actrice de théâtre incroyable. Enfin, c'est une actrice magnifique. Et donc, je lui avais parlé. Moi, j'étais hyper vénère. Hein. Vraiment, je rigolais pas du tout, quoi. J'étais chez elle et je me souviens qu'elle fumait ses clopes comme ça. Elle me regardait avec ce petit air de celle qui sait. Mais sans mépris, hein, je veux dire, elle écoutait vraiment ce que j'avais à lui dire. Et je dis, voilà, moi, si c'est comme ça, je vais arrêter, parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier, et c'est humiliant, et pourquoi ils pensent que les Noirs, c'est que des putes, et pourquoi, moi, dans ma famille, il n'y a pas de putes, et enfin, bon, je ne sais plus exactement comment je lui ai dit ça, mais je n'en pouvais plus, je me sentais insultée. Et puis elle m'a regardée, elle fumait comme ça, elle m'a dit, Aïssa, c'est sur la durée. Elle n'a rien dit d'autre. Et en fait, ça a forcé mon humilité. Parce que j'ai compris tout ce qu'il y avait dans le hors-champ. Dans ce qu'elle ne disait pas. Dans ce qu'elle avait dû subir. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je lui racontais, c'était de l'ordre du... Pas du non-événement. Si, quasiment. C'était quasiment rien. On a 10 ans d'écart. Donc, elle avait 10 ans d'expérience en plus que moi. Et je me suis dit, mais en fait, retrousse tes manches. Et vas-y, quoi. Arrête de te plaindre.
J'ai l'impression qu'il y a une vraie sororité entre les actrices que vous avez rassemblées dans ce livre. D'ailleurs, j'aimerais bien les citer, chacune.
Merci.
Parce que chacun de ces textes est vraiment, vraiment puissant et vraiment courageux. Donc, il y a Nadège Bosson-Diagne, Mata Gabin, Maïmouna Gay, Aïe Aïdara, Rachel Kahn, Sarah Martins, Marie-Philomène Ga, Sabine Pacora, Firmin Richard, Sonia Roland, Magagia Silberfeld, Shirley Soignon, Assa Silla, Karidja Touré et France Zobda. Hey Aïdara raconte une anecdote, un moment où un groupe d'actrices noires françaises s'était organisé pour postuler.
Ayez
Aïdara. Merci. Donc elle raconte une anecdote, un moment où un groupe d'actrices noires françaises s'est organisé pour postuler en groupe à des rôles qui n'étaient pas pensés pour des actrices noires. En fait, ce livre, est-ce qu'il couvait depuis quelque temps ?
En fait, je pense qu'on ne savait pas qu'on savait,
ouais,
que ça pouvait passer par là. Je pense que c'est quelque chose qu'on a dû dire comme des blagues, des boutades. Ah, maintenant, il faudrait qu'on écrive un recueil avec toutes nos histoires, ouais, parce que ce n'est pas possible. Mais c'était un peu absurde. J'ai le souvenir d'avoir dit ça avec Nadège Bosson-Diagne il y a plus de 15 ans. Et puis... En fait, quand je leur ai proposé, alors ça s'est fait de façon très simple, hein, c'est SMS pour les numéros que j'avais, je suis allée sur Instagram faire des messages privés à celles que je suivais, qui me suivaient, etc. Et c'était un message très court. Voilà, j'ai proposé aux éditions du Seuil un recueil qui regrouperait nos témoignages de femmes noires actrices dans le cinéma français. Est-ce que ça te dit un truc aussi simple que ça? Et elles ont eu des réponses. Mais ça a été fulgurant. Et en fait, on était prêtes.
Tout le monde a fait genre, mais oui.
Bah oui.
Ouais, bah oui. Mais ça sent, en fait, les anecdotes qui sont racontées. On sent que c'est mûri, en fait. Ça vient pas de nulle part, oui. Ce qu'elles racontent. Et c'est un truc que je voulais garder pour la fin, mais je le dis maintenant. Oui. Moi, je trouve que votre démarche, elle est journalistique.
Ah bon? Bah ouais. Va me faire pleurer.
Ah ouais, ça vous fait pleurer quand je dis ça? Bah oui, c'est un métier qui est important pour vous, c'est celui de votre papa, et puis vous vous exprimez dans les médias souvent sur le respect que vous avez pour le métier de journaliste. Et je trouve que, enfin, vous n'avez pas écrit un roman sur le cinéma, vous n'avez pas juste témoigné de votre propre point de vue, vous avez rassemblé des témoignages pour énoncer une vérité. Et avec une force que personne ne peut nier, parce qu'il y en a 16 et que ça se recoupe. Pour moi, c'est un travail de journaliste vraiment brillant que vous avez fait. Bah, vous êtes en train de pleurer.
Merci. Et vraiment, je reviens sur la collaboration avec Charlotte Rottmann, parce que, en fait, il fallait vraiment... Bon, moi, je ne suis pas journaliste, elle l'est. Et il fallait vraiment le regard de quelqu'un qui est habitué aussi à cette dynamique-là, à ce travail très particulier qui est celui d'avoir un point de vue, de recueillir une parole, de vérifier quand même un peu ses sources au passage.
Bien sûr, ouais.
D'être dans une intégrité et d'être capable d'agencer, c'est pas de l'agencement, mais de structurer les choses pour qu'elles soient le plus audibles possible. Et ça, je l'ai fait aux côtés d'une personne qui a partagé ça avec moi, elle a travaillé jour et nuit, et c'est aussi à ses côtés que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mmh. Ça a été mon école.
Alors, je pense qu'il est important de revenir sur l'anecdote que vous racontez, vous, dans le livre. Vous parlez d'une comédie romantique dans laquelle vous partagez l'affiche avec un grand acteur français. Voilà, c'est une comédie romantique. Effectivement, je l'ai revue. Vous êtes autant à l'écran l'un que l'autre. C'est vraiment votre histoire d'amour, la difficulté de s'engager. Enfin, voilà, le thème de comédie romantique qui sont explorées à longueur d'année au cinéma, partout dans le monde entier. Et la déconvenue. Donc, vous étiez fière de jouer ce rôle. Et la déconvenue apparaît au moment où l'affiche est publiée. Je vais peut-être vous laisser raconter la chute de l'histoire.
Oui, en fait, c'était pas très longtemps après Les Poupées Russes. J'avais joué dans un film aussi de Claude Berry qui s'appelle L'en reste l'autre part, où j'avais un rôle important aux côtés d'acteurs et d'actrices très connues, Nathalie Baye, Charlotte Gainsbourg, etc. Et puis... les choses commençaient à s'ouvrir. Il y avait eu quand même toute une période de débat, quoi, avec des mots nouveaux, les minorités visibles, la représentativité dans les médias, etc. Et donc, on en parlait. C'était plus juste, nous, dans notre coin, à nous dire, mais voilà, on a un problème, comment on va faire? Et puis, voilà. Ce réalisateur me choisit, Raphaël.
J'ai trouvé le film. Hein. On va le balancer. C'est L'âge d'homme avec Romain Duris.
Je sais.
J'ai fait mes recherches. Je me suis dit, j'ai trouvé le film que c'est.
Donc, sauf que moi, je veux nommer personne. Donc ça
c'est moi qui l'ai nommé.
Et donc, le réalisateur me choisit. C'était pas facile, je pense, pour lui d'imposer ce choix. Et parce qu'il y avait une actrice très connue en face qui était tout à fait prête à incarner ce rôle et qui était plus connue, quoi. Et donc, le film se passe et ça se passe vraiment très, très bien. C'est un super tournage, superbe ambiance.
Le film est chouette.
Oui, et puis c'était assez générationnel. On avait tous le même âge. C'est un film sur les trentenaires, et voilà. Et puis, l'affiche arrive et... Mais en fait, je ne sais pas si je m'attendais à être dessus pour être... En fait, ce qui m'intéresse dans cette anecdote, c'est aussi d'observer comme j'étais à l'époque, de regarder vraiment avec beaucoup d'honnêteté, sans me donner le beau rôle, comment je réagissais, quelles étaient les choses de la norme que j'avais intégrées, intériorisées. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais vécu comme une chance extraordinaire d'être sur l'affiche, alors que ça aurait été complètement normal.
Normal.
Et le fait de ne pas être dessus, alors ça m'a blessée. Et en même temps, pour moi, c'était une étape sur un chemin qui était très long déjà. Ça faisait au moins 10 ans que j'étais comédienne. Et vraiment, quoi. Et je me suis dit, là, déjà, tu as eu le rôle. La prochaine fois, tu auras l'affiche. Et du coup, je ne me suis pas battue. Mmh. Honnêtement, hein, je ne me suis pas battue. C'était un truc un peu gênant. Comme dans une famille, quand il y a un non-dit, on est à table, on passe Noël, personne n'a vraiment le courage de mettre le dossier sur la table, parce qu'on se dit, bon, en même temps, ça va, on n'arrive
pas à gâcher l'ambiance.
On va pas gâcher l'ambiance, etc. Et puis donc, le film est sorti comme ça, j'avais mon nom en grand, et je me rappelle que c'est ça qui m'a quand même un peu réparée. Je me suis dit, bon, bah écoute, ça va quand même. Par contre, dans mon entourage, notamment amical, j'ai des amis qui étaient révoltés. Mais qui n'étaient pas révoltés sur le thème « ils t'ont pas mise parce que t'es noire ». C'était juste, ils auraient dû te mettre sur l'affiche. Pour eux, c'était net. Il n'y avait même pas de débat sur la représentation, l'invisibilité, l'effacement, l'assignation.
Il y a vos deux noms.
Il n'y a que sa photo.
Et il n'y a que sa photo. Il y a vraiment et un truc qui est absurde. On est là, mais merde, c'est quand même hallucinant, un truc aussi énorme.
Voilà. C'est hallucinant, sauf que moi, 10 ans avant...
Il y a presque le vide pour vous à côté de lui,
ça.
Sur l'affiche.
Mais ça se trouve, ils ont fait des essais avec moi. C'est peut-être, fou. Parce que les graphistes sont toujours des essais à différentes propositions. Donc peut-être qu'il y a eu des... On pourrait retrouver l'affiche, celle qui n'avait pas été retenue. Et en fait, 10 ans avant ça, on m'expliquait, on me le disait droit dans les yeux, qu'on ne pouvait pas me mettre sur l'affiche, que ce n'était pas possible.
Enfin, vous l'avez déjà dit textuellement.
Mais bien sûr, mais plein de fois. Enfin, ce n'était pas...
Parce que ça ne vend pas, c'est ça un
truc ça ne vend pas, le public ne fuit pas, ça va... Les gens vont se dire, ah, un film avec des Noirs, ils ne vont pas y aller. Et en même temps... dans les mêmes salles de ciné, il pouvait y avoir Will Smith qui cartonnait, et ça ne dérangeait pas. Non, mais ce pays, pour ça, est incroyable. Moi, la nature humaine me passionne. C'est mon métier que d'explorer l'âme humaine. Je suis comédienne, OK? Mais l'âme de la France, à l'échelle d'un pays, c'est aussi un truc qui me passionne, parce que l'être humain est fait de contradictions, et ce pays est fait d'énormes contradictions. Et parfois, ces contradictions lui pètent à la figure... continue à pas les voir. C'est le déni total. Et je dois dire que, en fait, quand on a commencé à écrire le livre, j'étais tombée par hasard, chez moi, en rangeant des documents, sur un texte que j'ai écrit il y a 20 ans, dans lequel j'écrivais, je vois pas pourquoi je devrais jouer que tel type de rôle et pourquoi tels autres, je pourrais pas les jouer. Mon métier, c'est ça. Pourquoi? Parce que je suis noire. Voilà. Et j'ai dit à Charlotte Rothman, écoute, si le texte que j'ai écrit l'année dernière devient le prologue, peut-être que ma contribution, ce sera ce texte d'il y a 20 ans. Elle me dit, oui, pourquoi pas. J'ai dit, écoute, franchement, tu vas voir, il est incroyable. Je n'ai jamais remis la main sur ce texte.
Il a disparu.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais... Mais ça m'a rendu dingue. J'ai retourné ma maison dans tous les sens. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc peut-être qu'un jour, je retomberai dessus. Peut-être que je l'ai jeté dans un... Je ne sais pas. Et du coup, j'ai dû commencer à me creuser la tête parce que j'ai passé 3 semaines à chercher ce truc-là.
À essayer de retrouver les mots.
À essayer de retrouver exactement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, de toute façon, tu n'as plus le choix. Tu es acculé, il te reste une semaine pour rendre ton texte. Tu es obligé d'écrire. Mais le problème, c'est que moi, j'avais lu les contributions des unes et des autres. Donc, je savais que tel et tel et tel et tel sujet central, je n'allais pas l'aborder. Donc, par élimination, il me restait quasiment que cette anecdote, que cette histoire... Et je ne voulais pas la raconter parce que je ne la trouvais pas assez forte. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'espère que le truc, je ne l'ai pas en fait digéré. Ouais. Je pense que c'est le fait de l'avoir porté. C'est comme quand on est chez le psy et que parfois on raconte un truc, machin, et puis d'un coup, on réalise l'énormité de ce qu'on est en train de dire. Donc ouais, ce livre aura eu une vertu thérapeutique.
Un peu thérapeutique, ouais.
Pour remettre les choses à leur place.
C'est intéressant parce que chacune d'entre vous, en fait, a apporté, alors évidemment, des choses qui se recoupent, hein, qu'on retrouve d'un témoignage à l'autre. Moi, je voulais parler aussi de la lettre de Firmine Richard, qui est un peu l'autre anomalie du cinéma français parce qu'elle a une carrière grande et belle, comparable à la vôtre. Alors, c'est intéressant parce qu'elle a un point de vue un peu plus modéré.
Oui.
Par exemple, elle dit que jouer le rôle d'une gouvernante dans 8 femmes de François Ozon, c'est pas un problème parce que c'est un vrai rôle avec une profondeur, avec une subtilité. Elle parle aussi du cinéma qui reflète une certaine réalité sociale. Voilà, il y a beaucoup d'infirmières noires, donc c'est aussi pour ça qu'elle a des rôles d'infirmières noires, bien souvent. Par contre, elle termine en parlant d'argent. Et elle parle d'une comédie où un rôle équivalent, à notoriété équivalente, une actrice blanche qui jouait à ses côtés, était payée 5 fois plus qu'elle. Et là, c'est vraiment délirant. Enfin, la réalité est là. Les actrices noires sont aussi moins bien payées que les actrices blanches.
Alors, vous savez ce qui est intéressant, c'est que Firmine... elle a observé ça et elle a pu l'observer à un moment où il y avait des choses qui étaient comparables. C'est-à-dire 2 salaires avec, dans le même film, avec 2 actrices qui avaient eu autant de succès les années auparavant, etc. Et surtout, elle est tombée sur une actrice qui lui a dit combien elle était payée. Alors, bon, comme on est dans un pays où l'argent est super tabou, puis moi-même, hein, en général, je ne pose pas la question, voilà. Finalement, je ne saurais pas... En fait, si on me demande où je me situe en termes de salaire à niveau égal par rapport à d'autres comédiennes, je suis incapable de le dire. Et en fait, le voile qu'elle lève, il est vachement important parce que, d'abord, c'est pas normal, hein, d'accord ? c'est totalement injuste. Et je pense que ça nous force toutes et tous, et je parle pas que des actrices noires.
Hein. Entre les hommes et les femmes.
Les
aussi.
Hommes et les femmes.
C'est le nerf de la guerre.
Exactement.
On connaît pas la différence.
Exactement.
En réalité.
Et en réalité, je pense que ce croisement qu'on a voulu faire entre la thématique raciale et la thématique, raciste et sexiste, elle est intéressante aussi du point de vue de l'argent. Parce qu'elle raconte forcément la nature du regard qui est posé sur nous, nous autres, qui ne sommes pas ressemblants.
Tout à fait.
À la norme.
Tout à fait. Et elle rend hommage d'ailleurs dans son texte à Viola Davis,
oui.
qui est une grande actrice américaine qui a remporté un Oscar hein, pour son rôle incroyable dans Fences. Et elle a dit dans une cérémonie, je crois que c'était aux Emmy Awards, peut-être que je me trompe, mais en tout cas qu'elle avait constaté elle aussi une différence de salaire importante entre elle et d'autres actrices de sa génération comme Meryl Streep ou Sigourney Weaver. Faut le dire et c'est important. Votre démarche est vraiment courageuse. Vous en avez parlé au début de l'émission. Vous attendiez pas à avoir un tel accueil. Vous avez même eu peur que ça vous ferme des portes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une omerta très forte dans le milieu du cinéma, que je découvre comme un milieu très conservateur, très patriarcal. Ça, c'est dit. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui entoure aussi l'actrice. C'est-à-dire une espèce de précaution un peu distante, un aura de mystère, comme si l'actrice, elle ne devait jamais prendre la parole, elle devait toujours rester fumer une cigarette, les yeux mi-clos, dans un soupir à parler par... Non mais c'est vrai, j'ai cette impression-là qu'on crée ça autour des actrices en France. Est-ce que vous avez ce sentiment, vous aussi ?
D'une certaine façon, oui. On a plus tellement de modèles de femmes engagées dans le cinéma français. On en a un petit peu, mais ils ne sont pas tellement valorisés, je pense. Et du coup, je pense que ce que ça raconte, c'est qu'on est toujours dans l'idée de la passivité de la femme. Lorsqu'elle est actrice, encore plus, la muse, qui est censée apparaître grâce au regard d'autrui, un homme, qui n'est pas censée produire d'efforts, elle n'est pas censée travailler, son corps doit se suffire à lui-même pour lui apporter toute son aura. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui est hyper rétrograde, qui, moi, ne me fait pas du tout rêver. J'ai plutôt envie de prendre les choses en main et dans la plus grande détente, avec le sourire et avec tous mes camarades, hommes et femmes du métier.
J'ai regardé des films donc, de vous préparer l'émission, et vous êtes tellement belle.
Merci.
Mais c'est hallucinant. J'appelle mes gens, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette meuf. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. C'est quand même ouf d'être aussi belle. Et je me suis dit, vous êtes quand même célébrée pour ça. On vous le dit, on vous choisit souvent, pas que, évidemment, mais pour votre beauté dans des rôles. Et ça fait quoi de vivre en sachant que notre beauté est un atout aussi important dans notre carrière, dans notre vie? Est-ce qu'on a peur de la perdre? Pardon, ça, c'est une question bizarre.
Ouais, en fait, je pense qu'il faut vraiment que je rende hommage à l'éducation que j'ai reçue. Moi, dans ma famille, on m'a jamais dit « Oh, t'es belle ». Enfin, c'est vraiment un truc que le mot n'existait même pas chez moi. Non, t'as fait tes devoirs. Est-ce que tu as travaillé? Bon, est-ce que t'as rangé ta chambre? T'as participé aux travaux de la maison? Mais l'important, c'était vraiment la notion de travail. Je vais pas dire que c'est désagréable de s'entendre dire « Voilà, t'es jolie », etc. Mais ça n'a jamais été une valeur en soi. Ça ne m'a pas été inculqué comme tel. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai des rêves, j'ai des envies, j'ai eu un appétit de travail, d'élargir mes horizons. J'ai plein d'inspiration. Et aujourd'hui, il faut que j'arrive à me discipliner. Ce livre est aussi un cadeau pour moi pour ça, parce qu'il est arrivé comme une fulgurance et la maison d'édition a répondu tout de suite. Et ils nous ont imposé un rythme très rapide et le livre sort aujourd'hui. Et du coup, je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable d'aboutir des choses dans un temps donné. C'est mon petit défi personnel. Et du coup, mon attention est portée là-dessus. Par ailleurs, par rapport à la notion de plastique, en fait, le temps passe pour tout le monde, hein, n'est-ce pas? Même pour les actrices, dis-donc.
Oui, je sais bien, c'est vraiment à ça que je faisais.
Voilà, Et dans l'éducation que j'ai reçue, il y a aussi un regard très beau qui est porté sur le fait de vieillir. Ah, mais moi, il faut voir ces Africains, maliens en l'occurrence, prendre de l'âge et puis être dans une harmonie avec eux-mêmes. Enfin, je suis posée là. Les gens me regardent enfin avec toute la considération que je mérite. Les jeunes se plient en quatre, se courbent devant moi. On me parle avec respect, on me demande mon avis à tout bout de champ. Donc, en fait, ça m'a imprégnée. Et par ailleurs, alors là, je suis un peu coupée en deux, il y a l'éducation occidentale, Botox, crème, lifting, ne vieillissez pas, retrouvez votre jeunesse, faites disparaître ces rides. Enfin, et du coup, forcément, je suis imprégnée aussi par ça. Et à chaque fois que je me surprends devant ma glace ou autre, alors là, je me dis non. Ah non, attends, t'es en train de prendre de l'âge. Kiffe. D'abord, ça veut dire que t'es en vie. Donc, cadeau, OK. Et en plus, tu vas pouvoir développer d'autres pans de ta personnalité. Et là, j'ai toujours rêvé d'avoir la quarantaine, depuis que je suis jeune. Parce que quand j'étais ado, j'ai vu ma tante célébrer ses 40 ans. On a fait une fête et je la regardais et je me disais, j'ai envie d'être elle.
Ah, génial.
Et donc, j'ai été inspirée comme ça par des femmes qui, en prenant de l'âge... Et moi, j'ai un amour pour mes aînées, quelles qu'elles soient, qu'on est Firmine Richard et qu'elles aiment se dire notre doyenne. Et qu'elle le porte comme ça,
avec une classe
incroyable, en assumant exactement ce qu'elle est, avec sa culture, son accent, son corps, la coiffure, les lunettes, le rouge à lèvres bleu.
Elle est incroyable.
Et elle offre une interprétation de l'âge qui est magnifique et qui est hyper, hyper inspirante. Et ça va au-delà de la notion de beauté, pas beauté.
Je pense que ça peut aider toutes les femmes, ouais. Ce que vous venez de dire. Je vous remercie.
Merci.
Alors, je disais en ouverture d'émission, vous avez toujours milité, vous avez quand même toujours été très consciente et vous n'avez jamais eu peur de vous engager. Vous aviez signé en janvier 2012 un appel intitulé « À quand une femme noire en couverture de Elle ?» encadré d'actrices, mais aussi de militantes comme Rokhaya Diallo ou de journalistes comme Audrey Pulvar. C'était il y a donc 6 ans. Je me suis amusée, en préparant l'interview, à aller jeter un coup d'œil aux dernières couvertures de Elle. Vous savez combien de femmes noires en couverture de Elle en 2017 Pendant l'année 2017.
Ah, je dirais soit zéro, soit une.
Zéro.
Ah oui, ça c'est...
Zéro. Franchement, la dernière, c'est Ina Moja en novembre 2016, mais elle était en couverture avec Adèle Exarchopoulos et Monica Bellucci. Et avant, c'est Beyoncé, genre quasiment un an avant. Voilà.
Les Américaines qui ont le droit d'être noires, en fait,
oui,
en France.
C'est ça. Mais c'est un endroit où on entend aussi. On ne peut pas mettre une femme noire en couverture, ça va faire baisser les ventes. Enfin, ouais. Pour y avoir travaillé, je sais que c'est un discours qui est récurrent, comme sur l'affiche de cinéma, ce qu'on vous disait. Mm. Et ça rejoint aussi un autre aspect qui est évoqué dans le recueil, notamment par Maïmouna Gueye, qui en parle vraiment très bien, l'exotisation des femmes noires. Elle parle de la volonté irrépressible qu'ont les journalistes de qualifier mon corps d'envoûtant, avec des jambes longues comme des lianes, la souplesse d'une gazelle. Sa lettre est vraiment très forte, hein. Elle dit « mon corps n'est pas un terrain d'expédition ». Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous semble important dans ce combat
Ça me semble important parce que c'est... D'abord, d'une part, c'est vrai. C'est-à-dire que... Et c'est vrai, et pas uniquement pour les femmes noires. C'est vrai pour les femmes arabes, avec d'autres ressorts. C'est vrai pour les femmes asiatiques, avec encore un autre vernis d'exotisme. Et puis, au-delà des particularismes, ça me paraît important d'apporter cette contribution dans les paroles féministes aujourd'hui. J'étais dans une assemblée la dernière fois. De femmes pour l'égalité hommes-femmes dans le monde du cinéma, etc. Il n'y avait que des blanches. Donc évidemment, je leur ai dit, et en plus je le dis franchement sans agressivité, enfin voilà, moi je ne suis pas en guerre contre les gens, j'estime juste qu'il faut dire les choses, c'est comme dans la famille, hein, c'est partout en fait. et en fait, je pense qu'il y a une vraie maturité parce que les gens l'ont reconnu en disant c'est vrai. Mais je pense qu'on est tellement pas habitué à avoir des réflexes d'ouverture, de diversité, de croisement des thématiques qui ont recréé des entre-soi. Et le féminisme n'a pas le droit de créer un entre-soi. Le féminisme n'a pas tellement droit à l'erreur. Hein. Je veux dire, on a des siècles et des siècles et des siècles d'oppression, d'effacement, de relégation, d'empêchement. Et aujourd'hui, on a une opportunité incroyable d'ouvrir le champ, d'être entendu, d'avoir les leviers en main pour faire bouger les choses. Il ne faut pas que ce soit une machine à exclure. Il faut au contraire être capable, et je le dis, c'est, enfin, moi je ne donne pas la leçon, je m'inclus dedans, il faut être capable de dépasser certaines frontières, certains clivages, pour concevoir le fait qu'une femme qui n'a pas la même vision du féminisme a quand même droit de citer dans les paroles féministes.
Wow, vachement important. Merci pour ça aussi. est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui, j'y ai accès parce que j'ai fait un long travail thérapeutique en plusieurs étapes, que j'ai pu explorer et puis faire la différence entre ce qui m'appartient vraiment, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment moi, et puis ce qui est de l'ordre du conditionnement, du réflexe conditionné, quoi. Et puis, j'ai un métier incroyable qui repose beaucoup sur l'imaginaire. Et le cerveau humain est assez simple, on peut lui faire croire n'importe quoi. Et je peux, si je le décide, m'allonger dans ma chambre aujourd'hui et aller visiter des pans de mon enfance. Et j'ai fait une chose la dernière fois. Ah, c'est franchement... En fait, j'écris un documentaire donc, sur mon père. Et du coup, c'est très curieux parce que parfois, ça convoque vraiment, pas seulement sa mémoire, mais sa présence. Et c'est... Bon, moi, je ne suis pas croyante. Je ne suis pas mystique non plus. Mais il y a un endroit de moi, bon, je suis pleine de contradictions comme beaucoup de gens, comme tous les gens de bien, n'est-ce pas ? Et donc, je vis aussi avec la présence des défunts, etc., tout en me disant que ce sont des illusions positives. Ça n'existe pas, mais ça me fait du bien. Et la dernière fois, je suis repartie, j'ai passé un moment avec mon père en repartant dans l'enfance. Et j'ai vécu ce moment dans des sensations. La sensation de tenir sa main. Mais en fait, on peut faire ça. On peut faire exister des choses qui n'existent pas. Et en fait, je suis partie comme dans un voyage. Ça n'a pas duré très longtemps, j'imagine 10 minutes, un quart d'heure. Et ça m'a réparé. Ça a réparé l'absence. Ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, bah, tiens, aujourd'hui, tu es capable de développer tes propres outils thérapeutiques, émotionnels, à partir de ton métier et ton travail. Mais ça, je pense que n'importe qui peut le faire, en fait. Hein.
C'est un travail, quand même, je pense.
C'est une gymnastique. Et puis, il faut accepter, il faut lâcher prise. Mais c'était... Ouais. Donc, oui, je peux... Ouais, j'ai ma chambre à moi. Je peux y aller quand je veux. Elle est folle.
Non, pas du tout. C'est vraiment, vraiment pas du tout ce que je suis en train de me dire, justement. Non, je me dis que ce travail de documentaire, ça doit être quelque chose aussi qui doit beaucoup vous remuer. Et puis, oui. le fait d'écrire, de se mettre à un autre endroit du film, ça doit être important pour vous?
Oui, en fait, l'écriture est cet endroit dans lequel je suis dans ma chambre, là, pour le coup, parce que j'aime les mots, j'aime... le choix des mots, j'aime la langue comme... En fait, quand on... C'est pas à vous que je vais le dire, mais... Dès lors qu'on commence à pétrir la langue, ça devient vraiment une matière, c'est presque comme une matière physique, concrète. C'est une drôle de sensation, quoi. C'est une expérience physique. Ouais. Et du coup, j'y vais pas tout le temps dans l'écriture. C'est toujours un truc un peu compliqué où je vais faire 1000 trucs avant. Je suis toujours très, très occupée hein, quand il faut écrire. Puis à un moment, je m'installe et ça sort. Et je n'ai pas besoin d'être dans une réflexion rationnelle. Ça sort, ça s'organise. Et puis après, je peux retravailler ça. Et j'ai la sensation, quand je le fais vraiment, d'être au plus proche de l'expression de mon être, quoi.
Ça évoque quoi pour vous, la poudre ?
La poudre, c'est la matière explosive. Ça évoque le contrôle sur cette matière. Ça évoque une forme de puissance. Ça évoque aussi le feu d'artifice, les lumières explosives, les gerbes, les géométries dans le ciel. Et puis, quand j'entends la poudre, moi, je pense à vous.
Oh. Merci beaucoup, Aïssa Maïga.
Merci à Aïssa Maïga d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la programmation, la préparation et la prise de son Zisla Tortello et au mixage Laurie Galigani. Le générique est extrait de la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visioz. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi suivre et faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, La Poudre TV sur Instagram, La Poudre NE sur Twitter et La Poudre Podcast sur Facebook. Si vous aimez les femmes, les livres et surtout les livres écrits par des femmes, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes de La Poudre. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner à notre fabuleuse newsletter. Il suffit de vous rendre sur le site nouvellesécoutes.fr et de cliquer sur La Poudre. L'occasion de découvrir toutes les autres émissions que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood, flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code LAPOUDRE, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.